réveil à tous, il est 6h.
La maman a indiqué avoir tenté d'appeler pendant une heure le 18, puis le 15, mais sans succès.
Ce drame en Vendée lors de la panne des numéros d'urgence, un enfant de 2 ans est décédé, sa mère n'ayant pas pu joindre les secours à temps. L'enquête devra déterminer les circonstances de cette mort prématurée. Dans ce journal, vous êtes quand même gonflé, vif échange entre Emmanuel Macron et l'un de ses électeurs hier dans le Lot. Lui aussi va à la rencontre des Français. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe sera à Orléans aujourd'hui. Toujours beaucoup de suspense sur ses intentions politiques. Et puis Amel Bent, Vita et Camélia Jordana unissent leurs voix dans Soror, un nouvel album très politique qui sort aujourd'hui.
La page des sports à suivre, et c'est la Bérézina, Roland Garros, plus aucun Français en lice. Et puis mon invité inattendu qui sera un jardinier inattendu ce matin. Vous le connaissez plutôt comme humoriste, et bien il va nous emmener dans son verger, c'est son autre passion. Rendez-vous à 6h15.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Sans la vaste panne qui a empêché l'accès au numéro de secours dans toute la France, la vie de ce petit garçon de 2 ans aurait peut-être pu être sauvée. En Vendée, hier matin, sa mère a tenté pendant une heure d'appeler le 18, puis le 15, sans succès. Finalement arrivé sur place, le SAMU n'a pu que constater le décès de l'enfant. Les précisions du préfet de Vendée, Benoît Brocard.
Ce drame s'inscrit dans le contexte des dysfonctionnements très significatifs constatés dans l'accès au numéro d'urgence au niveau national. Le décès d'un jeune enfant a donc été constaté à Chavagne en paillé. Néanmoins, il apparaît qu'il y a un doute quant aux conséquences que ce dysfonctionnement aurait pu avoir dans le délai d'appel au service du SAMU pour venir auprès de ce petit enfant en grave détresse. Et c'est donc ce doute qui nous conduit à demander qu'une enquête administrative soit diligentée et ainsi apportée à la famille de ce jeune enfant tous les éléments d'information et toutes les assurances qu'elle peut légitimement attendre des autorités.
Des propos recueillis par Charles Guyard. Une autre enquête est ouverte dans le même contexte par le parquet de Vannes dans le Morbihan après la mort d'un homme de 63 ans aux urgences hier. Et puis à La Réunion, un autre décès pourrait être lié à ces dysfonctionnements.
Emmanuel Macron au contact, hein, vous en parlez hier sur Europe 1, le président vient de passer 2 jours dans le Lot, première étape de son tour de France pour prendre le pouls du pays.
Et lors de ce déplacement, le président est donc allé à la rencontre des Français. Il a même été pris à partie par un habitant à Martel, mais vous allez entendre que le chef de l'État ne s'est pas laissé démonter.
Il y a beaucoup de choses que vous avez dit que vous n'avez pas fait.
Il y a trop de gens qui ont fermé.
Quoi ? Alors ça m'intéresse.
Donc justement, la CSG sur les petites retraites.
Dans mon programme, il y avait la suppression des cotisations chômage qu'on remplaçait par la CSG. Les retraités qui n'avaient pas de cotisation chômage n'avaient que la hausse de CSG. Du coup, je l'ai corrigé jusqu'à 2000 euros. La hausse de CSG a été annulée.
Mais là, on a perdu.
C'était dans mon programme.
Ça fait qu'une compensation.
Mais pardon, vous me dites j'ai voté pour vous, c'était dans mon programme. J'ai fait ce que j'ai dit.
Ah, mais moi j'ai cru en vous, il n'y a pas de souci.
Mais d'accord, mais donc ne me reprochez pas d'avoir fait ce que j'ai dit. Et en plus, je l'ai corrigé en votre faveur. Vous êtes quand même gonflé.
Ah bon?
Mais j'ai pris une décision qui était conforme au programme. Vous étiez perdant. Pour vos enfants. Vous gueulez.
On la corrige.
Normal. On la corrige. Et maintenant, vous me dites, je ne suis pas content de ce que vous avez fait. Vous êtes tordu.
Non.
Mais si.
Il l'est pas, mais
plus tordu comme politique, c'est pas possible.
J'ai pas fait de politique avant, j'en ferai pas après.
Voilà, vous êtes tordu. Voilà, passe d'armes entre Emmanuel Macron et un habitant de Martel dans le Lot. Et il n'y a pas que le chef de l'État qui entame son tour de France. Édouard Philippe, tiens, commence le sien aujourd'hui. Première étape à Orléans.
Oui, ce sera pour soutenir le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, candidat au régional en Centre-Val de Loire. Édouard Philippe qui écume les librairies du pays avec Gilles Boyer depuis la sortie de leur livre Impression et Ligne claire. Une tournée qui permet à l'ancien Premier ministre de s'assurer de sa cote de popularité. Aurélie Herbemont.
On vous adore, vous nous manquez beaucoup et vous trouvons très très beau. Vous êtes magnifique.
Édouard Philippe ne s'attendait pas à pareille déclaration. Les autres lecteurs sont plus dans la retenue, parlent écriture, Matignon ou lui imagine un destin présidentiel.
En tant que PR, ce serait bien.
Oui, enfin bon. N'est pas, là c'était les municipales, c'est ça qui compte.
Lui aussi est dans la retenue sur ce sujet.
Je trouve qu'on se pose beaucoup la question de savoir qui va être candidat à quoi, et qu'on pose finalement assez peu la question de pourquoi être candidat.
Qu'est-ce qu'on fait de la France pour les 10-15 ans qui viennent ?
Il n'a pas encore de réponse, mais veut structurer son réseau d'élus pour produire des idées. Et quand il conseille à cette étudiante de réfléchir à son avenir, ça vaut aussi pour lui.
C'est la meilleure chose à faire. Quand on ne sait pas encore trop, on réfléchit.
Il n'y a pas de place pour lui avec un Macron aussi haut dans les sondages, tranche un marcheur. Mais il ne faudrait pas le voir comme un trophée déjà rangé sur une étagère, prévient un ami d'Édouard Philippe, qui sera fait grand officier de la Légion d'honneur d'ici 10 jours par le chef de l'État.
Aurélie Arbement du service politique d'Europe 1. 3 policiers ont été mis en examen pour homicide involontaire dans l'enquête sur la mort d'un homme en Seine-Saint-Denis il y a 2 ans, décédé après une clé d'étranglement lors de son arrestation.
Europe 1.
Il est 6h06 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant la suite du journal avec un peu de musique, féminisme et politique à l'honneur du nouvel album d'Amel Bent, Vita et Camélia Jordana. Un nouveau trio pour cet album intitulé Sonore. Quelques extraits bien sûr dans un instant. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
6h08 sur Europe 1, la suite de votre journal, Sophie Echen.
Et c'est un constat alarmant sur les côtes de l'Arctique. La banquise fond en fait 2 fois plus vite que prévu, c'est ce que révèle une étude britannique publiée aujourd'hui. Ce qui explique une telle réévaluation, l'épaisseur de neige sur la glace avait été mal mesurée. De nouvelles images fournies par un satellite de l'Agence spatiale européenne ont permis de rafraîchir ces données.
On va terminer en musique. Elles ont chacune remporté une victoire de la musique et elles ont vendu à L3 des millions de disques. Camélia Jordana, Vita et Amel Bent mélangent leurs voix et sortent un album commun aujourd'hui.
Et Sorore, c'est son titre. Elles y reprennent leur plus grand tube dans une démarche féministe. Elles se sont confiées à Angèle Châtelier.
Il y a des semaines où on se croise tous les jours, on s'éclatait toutes les 3. Et de là est née un peu l'idée dans l'équipe de se dire, il y a un truc toutes les 3 quand même ensemble. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de sympa, de magique à faire en reprenant chacune vos chansons les plus classiques? Et c'est parti comme ça, l'idée est née comme ça.
Pourquoi les femmes sont si fortes quand il faut tenir le coup et quand il part comme un lâche, c'est sa femme qui fait tout.
Et cet album commun, vous l'avez appelé Sorore. C'est un mot qui définit la solidarité féminine. C'est pas pour rien, j'imagine.
C'est pas un mot qui était encore très populaire jusqu'à il y a peu de temps. Étant donné qu'il y a cette sororité entre nous, spontanément on s'est dit mais en fait cette sororité-là, c'est génial de pouvoir la mettre à l'honneur, incarner ce mot sorore et y faire honneur, c'est une grande fierté pour nous, je crois.
Qu'est-ce que j'ai fait ?
On est dans une société où on nous a pas forcément beaucoup appris à s'aimer les filles et se supporter les unes les autres et se donner la force. À un moment donné, il est temps de se serrer les coudes les unes les autres et d'avancer ensemble.
Pour les
le titre de l'album de Camélia Jordana, Vita et Amel Bent dans les bacs aujourd'hui.
C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, il est 6h10. Et c'est l'heure d'ouvrir la page des sports avec vous Lénaïque Monnier et on commence avec cette Bérésina française, un bilan catastrophique. Il n'y a plus un bleu à Roland-Garros.
Oui, et d'habitude, on compte un peu ironiquement, mais avec le sourire, les Français présents en 2e semaine. Mais là, plus un seul représentant à la fin du 2e tour. Richard Gasquet s'est fait sortir brutalement, ce sont ses mots, par Raphaël Nadal. Même punition pour Gaël Monfils, qui s'est excusé auprès de ses supporters. Et puis, pas mieux chez les filles, Kristina Mladenovic et Fiona Ferro. Pire bilan du tennis français depuis 53 ans. Il y a du travail, nous dit Fiona Ferro.
Il faut faire mieux. Enfin, c'est sûr que c'est un constat qui est un peu triste d'avoir plus de Françaises dès le 2e tour. Il faut essayer de se poser les bonnes questions. Après, c'est dur de dresser un constat comme ça. Enfin, surtout après une défaite de ma part. En tout cas, moi, je sais que il va falloir retourner au travail pour être meilleur et pour faire mieux.
Fiona Ferro avec Axel May, les mousquetaires qui en plus ont pris de l'âge. La France se cherche donc un nouveau ou une nouvelle championne ou les deux pour reprendre le flambeau.
Le foot et le PSG sera peut-être champion de France ce
soir.
Oui,
alors vous n'avez pas raté un épisode. Hein. On parle évidemment des filles qui peuvent réussir là où les garçons ont échoué. Le Paris Saint-Germain doit battre Dijon pour faire oublier les 14 titres de Lyon. Olivier Échouafny, l'entraîneur des Parisiennes, veut y croire.
Quel bonheur déjà d'arriver là. On sait qu'on n'est pas très loin, mais en même temps, il va falloir faire ce qu'il faut.
ne pas vouloir déjouer, être capable de rester dans notre schéma de jeu, dans ce qu'on est capable de faire. Voilà, on va jouer face à une équipe de Dijon qui va être libérée. C'est une équipe qui a plus rien à jouer. Voilà, mathématiquement, rien n'est fait. Il n'y a pas de match facile. On veut bien terminer. Et pour ça, on aura, j'espère, tout le loisir d'éclater notre joie, notre bonheur à la fin du match. Mais il y a 90 minutes pour un titre.
Olivier Choifny avec Marguerite Lefebvre. Et puis, bonne nouvelle, il y aura du public pour le match des Bleus France-Bulgarie. 5000 spectateurs pourront y assister au Stade de France avec un couvre-feu repoussé à 23h avec un jour d'avance sur le calendrier de l'exécutif.
Et ça va être nouveau. Revoir des supporters dans un stade.
Manquait.
Alors, on les voit un peu à Roland-Garros, mais c'est pas la même chose que de les revoir au Stade de France.
Et oui,
donc,
encouragez les Bleus.
Le 8, c'est donc mardi soir.
Ouais.
Merci à vous, Léna Hickmonnier, le Journal des Sports. Il est 6h13 sur Europe 1. On va s'aérer un peu ce week-end. Vous allez peut-être faire du jardinage ou vous balader. Sachez qu'il y a ce rendez-vous au jardin. Un événement organisé par le ministère de la Culture avec des centaines de jardins qui vont ouvrir leurs portes exceptionnellement. Des visites, des animations aussi pour se former. Bon, en tout cas, mon invité inattendu n'a pas besoin de formation au jardin parce que c'est un expert qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Raphaël Mesrahi. Merci de m'accueillir.
Mais avec plaisir.
Ça me fait plaisir, c'est chouette. Non, c'est une vraie passion, le jardin, enfin, la nature en général. Voilà.
Bienvenue sur Europe 1, Raphaël Mesrahi. Vous êtes donc notre jardinier inattendu. On vous connaît plutôt pour vos sketchs. Vous allez nous raconter cette passion dans quelques secondes. À tout de suite.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h16 sur Europe 1 et on fait donc un peu de jardinage ce matin avec mon invité inattendu, l'humoriste et comédien Raphaël Mesrahi est avec nous. Bon, c'est donc pas l'un de vos sketchs absurdes, hein, Raphaël Mesrahi, vous êtes bien un jardinier.
Ah non, enfin, moi je suis pas jardinier pur et dur. Moi ce qui me passionne surtout sont les outils de jardin. J'avais fait une émission il y a une douzaine d'années sur Discovery Channel qui s'appelait « Les carottes, ça a des poils ». Et j'expliquais absolument tout, les origines de la pelle, de la pioche. Je suis un passionné d'outils. Et donc, forcément, de jardin, parce que comme j'aime la nature, donc j'aime bien regarder les bêtes, j'aime bien voir où les animaux vont, où vont les hirondelles, ce que les abeilles aiment butiner. Donc, tiens, je vais laisser un peu plus de lavande de ce côté-là. Donc, je crée un peu le jardin en fonction des animaux. Et de temps en temps, je laisse vraiment pousser pour que la moissonneuse vienne retirer des grands blocs de foin que j'offre à la ferme biologique qui est pas trop loin.
Il est où votre jardin?
Eh ben, il est dans l'Aube, il est en Champagne, pas loin d'une ville qui s'appelle Vendeuvre-sur-Barse. Mais je fais moitié Paris, moitié les bois. Là, je suis moitié bobo et moitié complètement. Alors là, je suis au milieu des bois avec des voisins qui sont complètement et des paysans trop sympas. Enfin, je suis moitié de maître. Voilà, moitié-moitié.
Ouais, moitié-moitié, c'est une chance de pouvoir se partager comme ça entre la ville et la campagne. Alors, qu'est-ce que vous faites pousser chez vous?
On a investi là parce que j'ai remarqué depuis quelques années que les figues poussaient super bien. Donc là, j'ai 4 figuiers là, qu'on a plantés il y a 3 ans. Donc ça commence à prendre. J'ai un pêcher qui est magnifique avec des. Alors, tout ça, c'est vrai que il y a 20 ans, moi qui suis de la région, qui suis au bois, si on m'avait dit des pêches dans le coin, c'est pas possible. Et ben, pas du tout, c'est formidable. On a des pêchers qui donnent super bien, des mirabelliers. Autrement, bah, beaucoup de plantes tomates.
Vous y avez passé tous vos confinements?
Ouais, quasi. Puis passer beaucoup de coups de fil à des copains qui récupèrent des graines. Là, je vais récupérer mes graines dans le pas loin de Beaune. La vraie difficulté cette année, bon, il faut planter juste après les seins de glace. Mais le problème cette année, après les seins de glace, ça n'arrêtait pas de pleuvoir et on peut pas planter quand il pleut. Donc on s'est trouvé pile un créneau et pour planter et pour passer la tondeuse là où il fallait, et c'était vraiment, on a jonglé, et là ils annoncent vraiment beaucoup de pluie tout ce week-end, tout ça, donc on sait pas si c'est bien pour les tomates, mais en tout cas,
avec les orages, attention aux orages.
Je sais, c'est ça le truc. Ça, c'est bien, mais ça, c'est les aléas de la vie, quoi. C'est comme ça, c'est la nature.
On vous sent passionné, en tout cas, par votre jardin et par ce que vous cultivez. Vous avez quand même toujours votre activité de comédien. Les interviews insolites avec votre personnage de journaliste totalement farfelu, c'est fini ou vous en faites encore?
J'en fais de temps en temps, mais avec soit des très jeunes qui ne me connaissent pas. Moi, c'est ce que je dis, je suis connu chez les vieux, surtout comme la RSTX. Et là, j'ai fait une grosse star internationale hier, par exemple. Mais c'était épique. Et au lieu de rester un quart d'heure, on s'est super bien entendu, on est resté 1h15. Donc là, pour le montage, on va un peu réduire l'interview. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait ça, par exemple. Là, je suis content, vachement fier, parce que je tourne dans le dernier film de Claude Lelouch. Enfin, il m'annonce que c'est son dernier film, donc j'ai un assez gros rôle. Et je suis content parce que je suis paysan dans le film. J'élève des animaux.
La sortie est prévue quand?
Son film, c'est exactement deux films. Il y en a deux en un. C'est-à-dire que le premier long métrage, il l'a tourné avec Harry Habitant, Gérard Darmon, Béatrice Dalle, etc., etc. Et le prochain, c'est la suite, c'est un binôme, c'est genre une série, mais en film. Il y a deux films en un. Et moi, je suis dans le deuxième. Vous et le deuxième, on n'a pas encore tourné le deuxième. Mais on va le tourner, je sais pas, j'attends qu'il revienne vers moi. Donc, mais on va tourner ça, je pense, avant l'été ou pendant l'été, quoi. Mais là, le fait d'être avec des animaux et de donner le biberon à des porcelets ou d'être avec des chèvres et des poules, mais moi, je nage dans le bonheur le plus complet, quoi. J'adore. C'est ma vie. Voilà, j'adore.
Merci Raphaël Mézrahi d'avoir joué le jeu de l'invité inattendu ce matin.
Merci à vous et puis bonne plein journée. De jolies choses à vous et vive Europe 1. Voilà.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est cette enquête ouverte suite à la grosse panne des numéros d'urgence. Hier, enquête ouverte après la mort d'un enfant de 2 ans en Vendée. Un homme de 63 ans, est également décédé à Vannes dans le Morbihan. La France suspend ses opérations militaires conjointes avec les forces maliennes, décision du ministère des Armées, alors que le pays a été secoué par 2 coups d'État en moins d'un an. Et puis, le procès des harceleurs de Mila, renvoyé au 21 juin, 13 personnes jugée pour propos haineux en ligne contre la jeune Iséroise qui avait publié des vidéos polémiques sur l'islam. Un groupe néo-zélandais ce matin dans la partition d'Omblid, c'est Crowded House. Leur histoire dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe 1.
6h24, c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche avec Omblin, un groupe néo-zélandais ce matin, l'un des rares d'ailleurs à avoir connu un succès international. Crowded House est de retour aujourd'hui avec un nouvel album après 11 ans d'absence.
Une carrière en deux parties, Sébastien, commencé en 1985, le groupe se sépare, puis retente sa chance en 2006. Malgré des succès rencontrés aux quatre coins du monde, on les connaît peu en France. Un single, cependant, est resté gravé dans nos mémoires.
Lorsque Crowded House se forme au milieu des années 80, le chanteur et guitariste Neil Finn est déjà un vétéran de la musique.
Il faisait partie d'un groupe de New Wave qui a connu un joli succès en Nouvelle-Zélande, mais aussi aux États-Unis. En 1984, Neil Finn, avec ce petit je ne sais quoi à la Paul McCartney, souhaite prendre un nouveau départ, faire ses preuves en tant que leader, auteur et compositeur.
Avec ses propres musiciens, Neil Finn quitte la Nouvelle-Zélande et s'installe à Los Angeles pour vivre son rêve américain.
Le groupe intègre le catalogue de la maison de disques Capitol Records, le label d'REM et Tina Turner. Complètement fauché, il s'installe dans une toute petite maison, une maison encombrée, Crowded House. C'est ainsi désormais qu'ils vont s'appeler.
Crowded House enregistre son premier album dans un style pop plutôt classique.
Pour ne pas dire démodé, Capitol Records est bien embêté pour faire la promotion de ce groupe naissant qui a conservé une vision artistique décalée par rapport au code des années 80. Alors pour que ça fonctionne, il va falloir présenter Crowded House au public sur une scène. Le groupe tente de se construire une petite notoriété en enchaînant les concerts.
Et lorsque le single Don't Dream It's Over sort en août 86, c'est toujours aussi laborieux.
Les radios qui daignent diffuser la chanson ne se bousculent pas au portillon. Au grand mot, les grands remèdes, la légende raconte que le manager de Crowded House se met à distribuer quelques billets à des stations indépendantes. Mais surtout, il profite du mois de décembre qui est généralement un temps mort dans l'industrie de la musique pour relancer le 45 tours. Hey now.
Sa stratégie fonctionne après 9 mois d'attente. La reconnaissance, enfin, pour Crowded House.
Au printemps 1987, Don't Dream It's Over atteint les sommets dans les classements américains et européens. Reprise par de nombreux artistes et notamment par Paul Young, la chanson connaîtra même une seconde jeunesse au début des années 90. Bye.
but today. Tales of war and of ways, but you turned right over to the TV page.
Avec donc ce groupe néo-zélandais Crowded House, Don't Dream It's Over.
Oui, un seul ou rare groupe néo-zélandais à avoir su traverser l'océan. Le groupe est de retour aujourd'hui avec un nouvel album qui s'appelle Dreamers Are Waiting.
Toujours du rêve, toujours Dream dans leur titre. Amblin Roche pour la partition. À demain dans la matinale de Pierre Devineau, oui. Ce sera à 6h45. Laurent Cabrol, le ciel est bien agité.
Pendant que vous lanciez le slow tous les deux, là, il se passe des choses sur les cartes, sur les cartes de France. Figurez-vous que nous allons vivre la journée la moins agréable de la semaine, avec franchement beaucoup de pluie et beaucoup d'orages ce matin. Et tout à l'heure, je pensais qu'ils étaient éparpillés. Là, ils se sont rassemblés pendant la nuit et nous les retrouvons sur toute la partie ouest de la France, hormis la Bretagne. Et dans le courant de la journée, cette zone orageuse va vraiment glisser vers les régions de l'est. Hein. Elle va toucher pratiquement les 4/5 de la France. Elle épargnera un tout petit peu le flanc est, mais encore pour peu de temps, et le bassin méditerranéen. Mais partout ailleurs, il y aura de la pluie, il y aura des nuages, il y aura donc, n'hésitez pas, chers amis, prenez de quoi vous abriter. Les températures vont baisser, hein, 20 à Rennes, 23 à Paris, 24 à Lille, 26 à Reims, mais tout de même 30 degrés à Lyon. Et puis sachez que je vous parlerai tout à l'heure de rendez-vous au jardin, j'ai écouté l'ami Raphaël Mesrahi, mais le congé de fin de semaine n'est pas trop mal. Hein. Demain et après-demain, vous pourrez aller visiter les jardins sur les deux tiers, les deux tiers du pays.
Bon, bah voilà donc une bonne nouvelle. Merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Votre journal tout de suite. Bonjour François Geffrier.
Bonjour.
6h30 sur Europe.
J'avais essayé avec le téléphone de ma maman et le fixe et rien ne marchait. Donc ce que je me suis dit, bah là, s'il nous arrive vraiment quelque chose de grave, on ne peut rien faire.
Alors que 4 cas de décès pourraient être liés à la panne des numéros d'urgence, récit de longues heures d'angoisse pour le personnel soignant qui ne pouvait pas travailler. Faut-il opter pour la tarification dynamique ? C'est une nouvelle offre à venir en matière d'électricité, mais les risques sont grands, alertent les autorités du secteur de l'énergie. Et puis vous allez bientôt pouvoir de nouveau soulever des haltères ou transpirer sur des machines de musculation. Les salles de sport préparent leur réouverture. C'est dans 5 jours maintenant.
Après le journal, 700 000 postes à pourvoir, des formations, des reconversions, de l'apprentissage. Les métiers de l'artisanat recrutent. Je reçois le président du réseau des chambres des métiers, Joël Fourny, dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Après la panne géante des numéros d'urgence mercredi soir, la justice devra enquêter car au total, les décès de 4 personnes pourraient être liés à cet incident très grave. Un petit garçon de 2 ans en Vendée, un homme de 63 ans dans le Morbihan, une femme de 54 ans à Aix-en-Provence, mais aussi en Outre-mer, touchée également avec la mort d'un homme à La Réunion. Après plusieurs tentatives d'appel pendant 20 minutes, son épouse a dû passer par une amie qui a pu joindre les secours, mais ils n'ont pu que constater le décès à leur arrivée.
Plus globalement, la panne a paralysé tous les services d'urgence de Lille pendant plusieurs heures. Le reportage pour Europe 1 de Charles L'Huillier.
Oui, Adeline, témoin d'une bagarre en début de soirée juste en face de son portail, a tenté d'appeler la police via le 112, mais en vain.
Il y avait un conflit entre deux femmes, ça arrêtait pas de crier dans tous les sens, ça a commencé à se bagarrer aussi. Moi j'ai dit à ma mère, j'appelle les flics. J'avais essayé avec le téléphone de ma maman et le fixe et rien ne marchait, donc ce que je me suis dit, bah là s'il nous arrive vraiment quelque chose de grave, on peut rien faire.
Même étonnement pour Bernard, ambulancier de garde, mercredi soir. Aucun appel de l'hôpital et donc aucun rapatriement de patients à domicile. Surpris par le calme inhabituel de son téléphone, il est allé directement en urgences.
On attendait les appels des urgences, ça sonnait pas et pour nous, il n'y avait pas de malade. J'étais aux urgences vers 20h, j'entendais la secrétaire des urgences qui me disait impossible de joindre les ambulanciers. C'était vraiment le bordel. Les patients sur des brancards toute la nuit en attente et jusqu'au matin quand les lignes étaient déverrouillées. Quoi.
Depuis, aucun nouvel incident n'est à déplorer, mais Orange Réunion reste en phase d'observation et des numéros alternatifs sont toujours en service si besoin.
Merci Charles Lhuillier, notre radio partenaire Radio Freedom à La Réunion. La cellule interministérielle de crise est à nouveau réunie ce matin à Place Beauvau à 7h30.
Un nouveau type d'offre d'électricité arrive sur le marché. La marque Leclerc a lancé la sienne en début de semaine. D'autres fournisseurs s'apprêtent à lui emboîter le pas.
Oui, on vous en a peut-être déjà proposé. Ça s'appelle la tarification dynamique. Le prix de l'électricité qui varie en fonction des marchés mondiaux, ce qui n'est pas sans risque pour les consommateurs, Maud Descamps.
Oui, parce que si sur le papier, c'est une offre alléchante pour les gros consommateurs d'énergie, ils vont pouvoir moduler leur consommation en fonction des prix. Pour les petits consommateurs comme vous et moi, c'est un mode de calcul qui peut être dangereux, avertit Antoine Autier de l'UFC Que Choisir.
Lorsque vous signez votre contrat, vous ne savez pas quel prix vous sera appliqué par le fournisseur. Vous êtes tributaire des évolutions du prix sur le marché de gros et notamment des périodes où les prix sont très élevés en hiver et en heure de pointe.
Le médiateur de l'énergie Olivier Chaland-Belval est également prudent face à ce type d'offre. Il demande à ce qu'elle soit davantage encadrée.
Moi, il y a deux choses que je propose. La première chose, c'est évidemment d'interdire que des offres à tarification dynamique soient souscrites à l'occasion d'un démarchage. Et la deuxième chose, d'encadrer très strictement les hausses et les baisses qui vont pouvoir être produites par l'utilisation de ces offres à tarification dynamique.
Et c'est désormais à la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, de poser les règles. La CRE qui, selon nos informations, compte prendre des mesures pour encadrer au maximum l'information du consommateur.
Maud Descamps, spécialiste des questions d'énergie à Europe 1.
Dans le monde, la barre des 2 milliards de doses de vaccins injectées a été franchie hier. En France, on en est à 27 millions et des entreprises s'y mettent.
Oui, une expérimentation est menée chez Veolia auprès de ses salariés volontaires. Victor Pourchet est allé voir pour Europe 1 au siège du groupe Veolia comment se passaient les injections.
Respirez. Souffler.
Les injections s'enchaînent dans ce qui est habituellement une des cafétérias de l'entreprise. Salle d'attente, box isolée et salle de repos ont remplacé les habituelles tables et chaises. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire auprès de la médecine du travail. Après un rapide contrôle médical effectué sur place, voilà alors, salarié du groupe, enfin vacciné.
C'est vrai que c'est un petit peu compliqué effectivement d'avoir des rendez-vous sur le réseau un peu plus traditionnel en dehors, et c'est vrai que le fait de faire sa vaccination sur son lieu de travail, ça simplifie et puis ça ouvrait effectivement des possibilités de créneaux beaucoup plus souples avec plus de chances d'avoir une place.
Faciliter l'accès à la vaccination, c'est l'objectif de cette première opération. Veolia a obtenu 2600 doses de Moderna à destination de ses salariés, et pour Frédéric Goetz, directeur de la prévention santé et sécurité du groupe, ce n'est qu'un début.
J'espère que ça ne sera pas une dernière campagne de vaccination, mais bien la première d'une longue série, parce que l'entreprise doit être un relais et un vecteur de la vaccination auprès de l'ensemble de la population.
Et Veolia n'est pas la seule entreprise à le faire. Une vingtaine d'acteurs comme Naval Group et AXA participent à cette expérimentation.
Victor Pourchet.
C'est la prochaine étape du déconfinement, le 9 juin, mercredi prochain.
Oui, couvre-feu à 23h, réouverture des salles de restaurants, mais aussi les salles de sport. Les grands réseaux de salles de fitness ont tenté de garder le contact avec leurs adhérents grâce à des programmes d'exercice en vidéo sur Internet, mais rien ne vaut le sport sur les appareils avec les conseils des coachs à côté. Lionel Gougelot s'est rendu dans une salle de Valenciennes où le gérant et ses coachs sont tout prêts.
À 5 jours de la réouverture, tout est déjà en place dans la salle de sport de l'Orange Bleu gérée par Michel de Castillo.
Comme vous pouvez remarquer, les machines, elles sont distantes d'un minimum de 2 mètres entre chaque adhérent.
Distance réglementaire entre chaque appareil de fitness, de musculation ou des tapis de course, condamnation des vestiaires et des douches. Il a fallu aussi calculer la jauge autorisée par rapport aux 1000 mètres carrés de surface.
Si on divise par 4 mètres carrés, donc on arrive à 250 en jauge maximale, à 50%, donc on pourra accueillir maximum 125 personnes.
Enregistré sur l'application TousAntiCovid, chaque adhérent sera aussi contactable en cas de contamination.
On a des fichiers avec les SMS et les mails. On a un logiciel qui permet de les contacter de manière rapide pour potentiellement les informer s'il y avait un cas contact.
Des clients attendus avec impatience par Lucille, la coach sportive, mais après 7 mois d'inactivité, ce sera reprise en douceur pour éviter les blessures.
Réveil musculaire, ne pas faire de répétitions trop rapides et trop longues, varier les exercices. Donc il faut y aller vraiment doucement, sinon on va faire mal à tout le monde et personne ne va vouloir revenir.
Mais rigueur, absolue sur le protocole sanitaire.
Ah ben ça oui, ça je peux vous le dire qu'à la réouverture je serai hyper stricte, je ne veux pas subir une autre fermeture, donc je serai intransigeante sur les respects des gestes barrières, ça c'est clair.
Valenciennes, Lionel Gougelot, Europe 1.
Voilà, tout le monde va pouvoir retourner dans les salles de sport, tout le monde, même les joueurs et joueuses de tennis français, puisque tous et toutes ont été éliminés de Roland-Garros et c'est malheureusement historique, aucun n'a franchi le cap du deuxième tour, ça n'était pas arrivé depuis 1968.
6h38, c'était le journal de François Geffrier sur Europe 1.
Europe 1.
La semaine de l'artisanat est lancée ce week-end à travers la France pour mettre en lumière de nombreux métiers et filières, des filières que recrutent et on en parle ce matin avec vous, Joël Fourny, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous, vous présidez la Chambre des métiers de l'artisanat, 700 000 postes à pourvoir, 700 000 postes, voilà un premier chiffre, vous allez nous dire dans quel secteur. À tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1. Le président du réseau des chambres des métiers de l'artisanat et mon invité en direct, Joël Fourny. Vous lancez donc la semaine de l'artisanat pour mettre en lumière vos filières et des filières donc qui recrutent. Je donnais ce chiffre. 700 000 postes sont à pourvoir. C'est un chiffre assez colossal. Ce sont quels métiers qui recrutent principalement?
Alors vous savez, c'est tous les métiers du secteur de l'artisanat, que ce soit dans les métiers du bâtiment, les métiers du secteur alimentaire, des menuisiers, des charpentiers, des boulangers, des bouchers. On a vraiment toute une panel, 250 métiers différents dans lesquels tous ont besoin de main-d'œuvre importante. C'est des métiers qui ont des opportunités d'emploi, hein, donc bien sûr.
Et qui ont du mal à recruter aujourd'hui.
Qui ont du mal, mais qui ont du mal à recruter, c'est simplement parce que c'était en forte tension avant la crise et aujourd'hui ils restent toujours, puisque la reprise se fait bien, ils ont toujours ce besoin de main d'œuvre importante. Donc même s'ils forment pourtant énormément et même si le réseau des chambres des métiers forme beaucoup à ces métiers au travers de la formation par apprentissage. Il y a vraiment des possibilités. C'est ouvert aussi à différents, j'irais, entrepreneurs qui viennent de différents horizons. Hein. C'est pas simplement ouvert à des gens qui sont aujourd'hui jeunes, mais tout public en reconversion, en repositionnement sur d'autres professions. Donc le secteur s'ouvre vraiment très largement.
Ça veut dire que ça repart aussi. Ça veut dire que la reprise est là. Comment ce secteur de l'artisanat sort de cette période de crise?
Ce secteur se sort plutôt bien de cette période de crise. C'est un secteur assez résilient. L'artisanat a su rebondir très vite. Donc déjà dans un certain nombre d'activités, bâtiments, alimentaires, c'est des métiers qui sont restés avec une activité assez soutenue tout au long de cette crise sanitaire. Et puis bien sûr d'autres secteurs, notamment les métiers de service, les coiffeurs, esthétiques, etc., qui ont eu une baisse d'activité un peu malgré... étant donné les fermetures administratives, mais ça reste quand même l'artisanat, un secteur qui sait repartir très vite. Et là maintenant, on sent une vraie reprise. Les consommateurs sont au rendez-vous et donc du coup, c'est plutôt assez bon signe. On est assez confiant.
Et vous nous dites que du coup, c'est aussi cette sortie de crise est aussi une opportunité pour aller chercher de nouveaux profils, peut-être pour aller chercher des reconversions. C'est que beaucoup de gens se posent des questions, s'interrogent sur d'éventuelles reconversions.
Voilà. Donc, si certains s'interrogent sur ce qu'ils, par rapport au fait de pouvoir, pourquoi pas, repartir sur autre chose, eh bien, le secteur de l'artisanat est vraiment là pour les accueillir et leur donner une opportunité, parce qu'il y a des besoins. Et puis, il faut savoir que dans l'artisanat, on peut faire de brillantes carrières. On mettra d'ailleurs tout au long de cette semaine de la nationale de l'artisanat en lumière les savoir-faire de l'artisanat, les vrais professionnels qui ont la possibilité de proposer des activités professionnelles sur la durée avec des parcours assez exemplaires. Donc on parlera beaucoup de ces métiers, on valorisera énormément tout au long de cette semaine ces métiers-là.
Des opportunités pour se reconvertir et des opportunités aussi pour les jeunes. Évidemment, on pense à l'apprentissage, vous l'avez cité. Les chiffres décollent vraiment hein, depuis l'an dernier, à la faveur des aides d'État aussi, qui continuent à s'appliquer
Oui, les aides d'État continuent à s'appliquer. Elles sont maintenues jusqu'à la fin de l'année 2021. Et donc, du coup, c'est une réelle opportunité aussi pour des jeunes. Quand on est dans l'action, un jeune, une solution, bien sûr, le secteur de l'artisanat y participe au travers de l'engagement sur la formation professionnelle et sur la formation par apprentissage. Et donc, on a constaté une forte évolution l'année passée, puisque nous étions à plus de 4%, là où nous sommes déjà un des premiers acteurs de la formation par apprentissage. Et au sein même de notre réseau, nous formons plus de 100 000 jeunes chaque année, et nous avons une capacité aussi à accueillir encore plus. Donc, bien sûr, nous restons confiants pour cette rentrée 2021, qui, je pense, sera aussi une année, une bonne année. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui peuvent s'orienter sans aucune difficulté vers les métiers de l'artisanat. Ils auront cette possibilité de pouvoir se former.
Et les entreprises qui prennent en charge ces jeunes en alternance reçoivent une aide exceptionnelle de 5 000 euros pour recruter un alternant mineur, 8 000 euros pour un majeur, donc des aides qui sont reconduites jusqu'à la fin de l'année. Ces jeunes, ils ont un poste assuré à la fin de leur période d'apprentissage aujourd'hui?
Vous savez, quand on fait une formation par apprentissage dans l'artisanat, c'est pour les jeunes, c'est à peu près 85% des apprentis qui ont été formés sur les différents métiers trouvent un emploi après leur examen dans les 7 mois qui suivent. Donc ça veut dire que du coup, s'ils le veulent, il n'y a aucune difficulté, ils auront un emploi derrière.
Merci à vous, merci Joël Fourny d'être venu ce matin sur Europe 1, lancer donc cette semaine de l'artisanat à travers la France avec, vous le disiez, des journées portes ouvertes et des découvertes de ces métiers. Vous présidez le réseau des chambres des métiers. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous. Au revoir.
6h46, Anissé Mbida dans un instant pour l'innovation du jour.
Europe 1, Sébastien Krebs.
6h49, bonjour Anissé Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
L'innovation du jour, et on va retomber un peu en enfance ce matin, c'est un bonbon. Alors un bonbon qui ne ferait pas mal aux dents, le premier d'ailleurs qui pourrait même être recommandé par les dentistes, c'est votre promesse, expliquez-nous, parce que bon, en principe on sait que les sucreries provoquent plutôt des caries, vous en avez trouvé un qui au contraire restaure l'émail des dents.
Oui, et ça pourrait vraiment tout changer, parce qu'aujourd'hui, quand on a une carie, on ne peut pas faire grand-chose à part la colmater avec un plombage. Jusqu'ici, on n'avait aucun moyen simple de reconstituer un émail abîmé. Eh bien, une équipe de chercheurs de l'Université de Washington a développé une petite pastille à la menthe, donc un bonbon, avec une protéine spéciale à l'intérieur, qui va se lier à l'émail endommagé et le reconstituer tout doucement, micron par micron, et les dents finissent même par retrouver leur blancheur d'origine. Et d'après leurs tests, il serait possible de résorber totalement une carie superficielle en suçant 2 pastilles par jour pendant 3 semaines, ce qui est quand même plus agréable que de se faire curer la dent par un dentiste.
Oui, c'est sûr. Et si on a une carie plus profonde, si l'émail est vraiment percé?
Bah là, malheureusement, c'est déjà trop tard. Ça sera comme aujourd'hui, curage à la fraise, plombage, cris, douleur, etc. Mais ça veut dire aussi qu'on pourrait utiliser ces pastilles comme traitement préventif pour protéger et renforcer ses dents. Et là, vous imaginez, c'est le monde à l'envers, puisqu'on vous dira de manger des bonbons pour ne pas avoir de carie.
Et voilà, le bonbon qui sauve les dents. Est-ce qu'on est sûr que ça marche? C'est prouvé?
Alors, ça fait 3 ans qu'ils y travaillent. Ça a déjà été prouvé en labo et les premiers essais cliniques viennent de démontrer l'efficacité sur un petit groupe de personnes. Mais comme tout produit médical, il faut maintenant valider les résultats sur un groupe plus important. Et si ça marche, il pourrait s'agir du premier traitement capable de faire repousser l'émail au lieu de simplement le préserver et le réparer, réparer ce qui reste comme aujourd'hui.
Voilà, un petit bonbon à la menthe, c'est mieux que le passage chez le dentiste.
Oh non, pas ça,
quelle angoisse.
Pitié.
L'innovation du jour d'Anissé Mbida. Merci, à lundi. À 6h51, nous faisons le tour du monde chaque matin de nos correspondants à l'étranger. C'est notre revue de presse internationale et nous sommes ce matin en Israël, chez vous Clotilde Mravko, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse à Jérusalem?
Eh bien, c'est Benjamin Netanyahou, le Premier ministre sortant, contre-attaque, explique le Jérusalem Post, après que ses opposants ont annoncé avoir formé un gouvernement. Ses jours au pouvoir sont menacés, rappelle le quotidien, après 12 ans de règne sans discontinuer. Alors, Benjamin Netanyahou a appelé tous les députés de droite à s'opposer à cette nouvelle coalition dangereuse, rapporte Haaretz. Le gouvernement proposé avant-hier doit encore être approuvé par la Knesset, le Parlement israélien, souligne le Times of Israel. Or, en coulisses, note le journal, Les députés du parti de Benjamin Netanyahou tentent de faire pression sur certains membres de la coalition pour qu'ils changent d'avis et fassent tout capoter. Le Premier ministre sortant se battra jusqu'au bout, promet un éditorialiste du quotidien de droite Israël Hayom, qui juge la nouvelle alliance entre la droite dure et la gauche très fragile. Dès que l'un des partis défendra vraiment ses idées, ce sera le début de la fin, prédit-il.
Clotilde Mravko en Israël pour Europe 1, merci à vous. Nous allons à présent en Inde. Bonjour Combastin.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous marque dans les journaux indiens ce matin ?
La colère croissante des médecins ici contre Baba Ramdev. Ce gourou défenseur des médecines indiennes a dépassé les bornes selon le Time of India. Il a avancé que le yoga pouvait prévenir le Covid et que des centaines de milliers de personnes en Inde étaient mortes à cause des médecines modernes contre la maladie. Le personnel médical indien a organisé cette semaine des manifestations et demandé son arrestation, raconte le Hindustan Times. Certains ont continué le travail mais inscrit le message sur leur blouse. Même le gouvernement, plutôt proche de ce gourou devenu richissime grâce à la vente de médecine naturelle, a dû réagir et lui demander de retirer ses propos, rapporte India Today. Baba Ramdev s'est excusé de façon confuse, mais ça n'a pas calmé la colère. Hier, la haute cour de Delhi l'a attaqué pour promesses trompeuses sur ses médicaments naturels contre le Covid.
Combastin, à New Delhi pour Europe 1. Nous terminons notre petit tour du monde du jour aux États-Unis avec vous, Alexis Guilleux. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui fait les gros titres à New York ?
Eh bien, le discours d'une jeune lycéenne au Texas lors de sa remise de diplôme, Paxton Smith, major de sa promotion, n'a pas prononcé le texte qui avait été validé par son école, raconte le Washington Post. À la place, elle a lancé un appel pour le droit à l'avortement. 3 minutes sur scène pour dénoncer la loi dite du battement de cœur, explique le Dallas Morning News. Cette loi récemment adoptée par les autorités texanes qui interdit l'avortement après 6 semaines de grossesse. C'est déchirant et déshumanisant de se voir retirer l'autonomie de son propre corps, a déclaré la jeune femme. C'est une guerre faite contre mes droits. Le journal The Hill rappelle que plusieurs États contrôlés par les républicains ont fait récemment passer des lois pour restreindre l'accès à l'avortement et la Cour suprême se penchera sur le sujet dans les prochains mois. Ce discours filmé est devenu viral sur les réseaux sociaux, souligne CNN, salué notamment par Hillary Clinton qui a tweeté « Il faut du courage, merci Paxton de ne pas rester silencieuse ».
Voilà, Paxton Smith et ses mots donc à cette remise des diplômes. Merci à vous Alexis Guilleux depuis New York pour Europe 1, il est 7h05.
Europe 1.
Mathieu Belair s'installe, le 7-9 commence dans un instant avec notamment cette Bérésina à Roland-Garros. Plus aucun Français en lice après le deuxième tour. A tout de suite sur Europe 1, bon réveil. Il est 6h58 sur Europe 1, un très bon week-end et à lundi. Bonjour Mathieu Belliard.
Bonjour Sébastien Krebs, bonjour à toutes et à tous. Vendredi 4 juin 2021, soyez les bienvenus sur Europe 1, le monde a changé, on va vous le raconter. Est-ce que vous êtes, Sébastien, est-ce que vous êtes un gamer ? Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ?
Non, pas tellement. Trop, non.
Alors, faut bien le reconnaître, pour beaucoup d'entre nous, évidemment, le jeu vidéo, c'est encore un peu ça.
Ah oui, c'était pas
oui,
un peu
je sais,
ça.
C'est cliché, je sais que c'est la Madeleine, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien. Un peu d'enfance, hein, oui, évidemment, quand on parle d'une industrie qui est en pointe chez nous. C'est de la culture, c'est de l'économie, c'est du sport. En réalité, le jeu vidéo, aujourd'hui, c'est plutôt ça.
Imran Sakaev.
L'âge moyen du gamer, c'est 40 ans. Un joueur sur deux est une joueuse et surtout, on est bons, nous les Français. À 7h40, un témoignage assez rare. Nicolas Doucet, un Français qui vit à Tokyo et qui dirige Team Asobi. C'est le studio historique de Sony au pays de Nintendo et de la PlayStation. On va parler intelligence artificielle, réalité virtuelle dans le tête-à-tête Europe Matin. Là, c'est pas de la réalité virtuelle, c'est de la réalité tout court. Dossier de la rédaction ce matin. La vidéosurveillance intelligente en supermarché, c'est dans le journal à suivre. Des logiciels qui sont capables de dire si vous portez un article dans le caddie ou dans la poche. Et oui, on est surveillé, ça pose quelques questions évidemment éthiques aussi. Voilà quelques éléments du programme. Très bon réveil à toutes et à tous. Il est 6h59 et Laurent Cabrol est avec nous pour la météo. Bonjour Laurent.
Le baby-foot et le flipper, qu'est-ce que c'était bien.
Le flipper, c'est un peu du jeu vidéo aussi.
C'est un peu ça.
Le bon, baby-foot, c'est plus dur.
Toute la semaine, j'étais quand même assez tranquille avec vous, chers amis, en vous parlant des orages. Mais, franchement, là, aujourd'hui, il faut faire vraiment très attention. Soyez prudents sur les Hautes-Pyrénées, les Charentes-Maritimes, la Vendée, la Vallée de la Loire, la région parisienne, la Normandie. Les orages pourraient être méchants. Ils seront méchants, surtout cet après-midi, sur le sud-ouest, le massif central dans son ensemble, la Bourgogne, le Nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Et puis, seront touchés aussi le Roussillon, la vallée du Rhône, la région lyonnaise, la Franche-Comté et l'Alsace. Vous voyez que pratiquement toute la France sera touchée, hormis la Bretagne et le Cotentin qui sont un peu à l'abri, et hormis le bassin méditerranéen. Mais surtout, chers amis, soyez vigilants, les températures vont baisser de 2-3 degrés, j'y reviens tout à l'heure. Je reviendrai aussi sur le temps de demain et d'après-demain, qui s'annonce pas trop mal pour la plupart de nos régions.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, on écoute Le Monde Changer.